VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h temps universel dans 5 minutes, Carrefour avec Eric Manirazik-Lisa. Mais tout d'abord, les nouvelles. Nouveau gouvernement Guinée-Conakry, un profil du cabinet du Premier ministre guinéen Mamadi Youla avec notre correspondant dans la capitale guinéenne, Zakaria Camara.
Un seul de l'opposition, Mohamed Tall de l'UFR, est nommé ministre de l'élevage. Pour le reste, c'est un gouvernement rajeuni, mais surtout féminisé avec cette nomination de femmes à des postes stratégiques. Les départements de l'action sociale, de l'environnement, eau et forêt, les travaux publics, du plan et coopération internationale, de l'agriculture, des affaires étrangères et guinéens de l'étranger, et surtout celui de l'économie et des finances sont confiés aux dames. Au total, 14 nouveaux cadres sont nommés ministres de la République. 16 de l'ancienne équipe sont sortis alors que, parmi ceux qui restent, certains sont confirmés à leur poste, d'autres occupent désormais la tête d'autres départements. C'est le cas de Maître Abdoul Kabele Camara qui quitte la défense pour la sécurité nationale. 2 jours avant, Alpha Condé avait nommé l'ancien Premier ministre Sidya Touré haut représentant du chef de l'État et le Sénégalais Jack Diouf conseiller spécial du président de la République. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
Au Niger, les experts de l'Organisation internationale de la francophonie venus sur place sur demande de la Commission électorale nationale indépendante pour auditer le fichier électoral ont finalement présenté leur rapport. Le document fait état de nombreuses anomalies comme par exemple plus de 25 000 doublons. Pour tout cela, l'équipe du général Siaka Sangaré a recommandé une correction dans l'immédiat, faute de quoi le fichier ne peut être jugé bon.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Crise en RCA, la France exhorte les acteurs politiques centrafricains à faire preuve de responsabilité, alors qu'une vingtaine de candidats à la présidentielle du 30 décembre dénoncent des irrégularités lors du scrutin et exigent l'arrêt des opérations électorales. Les contestataires, qui représentent les 2/3 des prétendants à la magistrature suprême, parlent de mascarade après la publication de résultats partiels donnant une avance confortable à un outsider. Faustin Archange Touadéra, ex-premier ministre du président renversé François Bozizé. En RDC, le gouvernement va libérer environ 2000 prisonniers ce mois-ci, des détails avec John Lindon.
Selon le ministre de la Justice Alexis Tambwe, le gouvernement, à travers cette mesure, veut réduire la surpopulation dans les prisons. Pour les analystes, il s'agit aussi de réduire la tension politique avant l'élection présidentielle prévue pour novembre prochain. Les organisations de droits de l'homme ont salué l'annonce, mais critiqué le gouvernement d'ignorer des dizaines de prisonniers qui, disent-ils, restent en détention pour avoir accusé le président Joseph Kabila d'essayer de se maintenir au pouvoir après la fin décembre prochain de son mandat. Parmi les 2000 prisonniers, 1200 sont des délinquants qui ont purgé au moins un quart de leur peine et reçu l'approbation du directeur de la prison et du procureur général, a expliqué le ministre de la Justice en précisant que ces prisonniers seront libérés dans les prochaines semaines. Environ 800 prisonniers supplémentaires doivent être libérés à la suite de la grâce présidentielle accordée la semaine dernière par Joseph Kabila à tous les prisonniers de plus de 70 ans et n'ayant pas commis des crimes graves, de même qu'aux membres d'un mouvement séparatiste religieux.
Crise au Burundi, les pourparlers destinés à dénouer la crise ne reprendront pas comme prévu demain à Arusha, en Tanzanie. C'est ce qu'ont indiqué aujourd'hui des représentants du gouvernement burundais et de l'opposition. Aucune date n'est avancée pour le moment concernant la reprise du dialogue inter-burundais. Et pour terminer, ici aux États-Unis...
This is not a plot to take away everybody's guns.
Le président Barack Obama vient de présenter à la Maison-Blanche les grandes lignes de son projet de renforcement du contrôle des armes à feu, sans passer par le Congrès, où il s'est toujours heurté à une forte opposition de la majorité républicaine dans les deux chambres, chaque fois qu'il a exigé des restrictions suite à diverses fusillades de mars dans le pays. Il est temps pour les Américains d'arrêter cette hémorragie, a souligné Barack Obama en rappelant que 30 000 Américains meurent chaque année à cause des armes à feu. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Meilleurs vœux, chères auditrices et auditeurs de VOA Afrique, Eric Manirakiza, Carrefour Science et Santé vous souhaite une année de bonne santé et nul n'ignore que la santé, c'est le plus grand des biens. C'est pour cela que votre magazine se penche en ce début d'année au bilan de 2015 et à la perspective dans la lutte contre le sida, la pandémie qui gangrène l'Afrique et qui ne cesse de nous retirer ce bien qu'est notre santé. Nous aurons les témoignages de Jeanne Gapia Niyonzima, burundaise, 29 ans de vie avec le sida, 21 ans de combat contre le VIH.
Il y a un relâchement qui fait très mal et qui me fait peur. Cette jeunesse aujourd'hui se dit « j'aimerais vivre sans le sida ». Parce que c'est vrai, vivre avec le VIH c'est possible, mais vivre sans le sida c'est encore mieux.
Le sida c'est aussi un combat des jeunes. Mani Djelassem, 17 ans, tchadienne, porte la voix des jeunes.
Quand j'ai su que j'étais infectée, je savais quoi dire quand j'étais vraiment triste. J'étais toujours enfermée, donc je savais pas. Et j'avais toujours peur que les gens me stigmatisaient, quoi. Les gens me disaient n'importe quoi.
Dans la vie, ce qui compte, ce n'est pas l'issue, mais c'est le combat, dit une citation française. Mais nous pouvons atteindre notre objectif en maintenant le combat. L'an dernier, 36,9 millions de personnes étaient malades du sida dans le monde. Ces chiffres publiés par l'ONU précisent que l'Afrique, notre Afrique, reste le continent le plus menacé. Parmi ces malades, 15,8 millions de personnes étaient sous traitement antirétroviraux. L'objectif fixé d'ici 2030, c'est d'éliminer l'épidémie de sida. L'ONU SIDA compte utiliser pour 2020 la formule 90-90-90. 90% des personnes infectées par le VIH doivent le savoir. 90% des personnes connaissant leur statut doivent suivre un traitement. Et enfin, 90% de celles qui sont traitées doivent voir leur charge virale supprimée. Pour réussir ce pari, des activistes s'impliquent comme Jeanne Gapia Niyonzima, présidente de l'Association nationale des séropositives et des sidaïens, ANSS, du Burundi. Mais comment a-t-elle débuté ce combat?
Alors, je suis engagée dans la lutte contre le sida depuis 1994, donc je dirais 21 ans maintenant, et c'est devenu tout simplement ma vie, parce que c'est un engagement où j'ai mis, en tout cas, une passion et une volonté comme je peux le faire.
Oui, mais il doit y avoir une raison particulière.
Alors, disons que si je me suis engagée auprès des malades, des personnes infectées, malades du sida, c'est que je suis moi-même infectée depuis 29 ans. Et que j'ai décidé de ne pas pleurer sur mon sort, mais plutôt de transformer ce malheur, faut l'appeler ainsi, à une énergie positive et chercher à trouver des solutions, à me battre, mais surtout à me battre pour des centaines, des milliers d'autres personnes qui n'ont pas peut-être eu la chance que j'ai eue. Et que ce soit au niveau du Burundi, en Afrique et dans le monde.
Oui, vous avez décidé de briser le tabou. À l'époque, ce n'était pas facile de dévoiler sa séropositivité. Voudriez-vous nous rappeler comment ça s'est passé? Vous étiez à l'église, paraît-il, à l'époque.
Exactement. En fait, ma première sortie, mon premier témoignage à visage découvert, ça a été en 1994. Le 1er décembre 1994, comme vous le savez, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Et ce jour-là, il y avait une messe qui était dédiée à la lutte contre le sida. Et j'y suis allée en tant que chrétienne. Et comme on dit que c'est le jour où on va prier, on disait qu'il fallait prier pour les morts. Et j'en avais assez pour prier pour eux.